Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Léa Sabourin, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Laurie Vachon.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Après une série consacrée à l'électricité, c'est un débat sur un sujet d'actualité économique que nous vous proposons comme chaque vendredi. Aujourd'hui, direction l'hôpital public, touché par une grève qui prend de l'ampleur. Plus de 100 services d'urgence sont désormais mobilisés pour dénoncer le manque de moyens, l'obsession de la rentabilité et les salaires trop bas. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a rencontré ce matin les représentants du personnel hospitalier pour tenter de trouver une issue à la crise. Et cela alors que le projet de loi santé a été adopté cette semaine en première lecture par le Sénat, un projet qui prévoit entre autres de mettre fin au numerus clausus et de développer des hôpitaux de proximité pour lutter contre les déserts médicaux. Alors comment répondre aujourd'hui à la crise qui touche les urgences? Le projet de loi santé est-il en mesure de répondre aux nombreux défis de l'hôpital public? Et faut-il repenser l'ensemble de notre système de soins? Voilà les questions qui vont émailler notre discussion du jour. À 14h45, nous vous emmènerons dans les salles majestueuses de la Cité de l'économie qui ouvre ses portes aujourd'hui dans le 17e arrondissement de Paris. Et pour parler de la crise de l'hôpital public, trois invités autour de la table, dont un qui nous rejoindra dans quelques instants. Bonjour Zane Labrier.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale de la Fédération hospitalière de France. À vos côtés, Patrick Bourdillon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire fédéral de la CGT Santé et assistant de régulation médicale au SAMU du Vaucluse. Et j'accueille également Nicolas Da Silva qui arrive à l'instant. Bonjour Nicolas Da Silva.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'université Paris 13. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Les gens attendent dans les couloirs, il n'y a pas de lieu digne pour les mettre quelque part. Ils sont dans des draps, dans des courants d'air parce que ce sont des couloirs et c'est vraiment à tout vent.
On arrête de nous demander de faire des toilettes en 6 minutes, c'est inadmissible. De nous demander de faire deux postes en même temps et à la fois le poste aide-soignant et le poste infirmier.
Moi, je gagne 600 euros, je travaille la nuit, je travaille un week-end sur deux, en 12 heures. C'est pas normal de gagner avec Bac plus 3 autant de responsabilités, passer après les médecins, d'avoir 18 patients à charge.
On est rappelé sur nos jours de congé pour remplacer les absents. Il y a très peu de remplacements. C'est nous, en fait, on doit se débrouiller entre nous, être rappelé la veille pour le lendemain pour pouvoir remplacer ceux qui ne viennent pas et on recrute de moins en moins.
On aime notre métier, on aime ce qu'on fait. Mais il y a un moment donné, quand on se fait insulter, agresser, voilà, ça ne peut plus durer.
La difficulté est sûrement là, c'est-à-dire qu'on accueille dans nos services des patients qui ne devraient pas s'y trouver. Et donc, à partir de là, eh bien, on a une suractivité qui, sur certains moments de l'année, sont difficiles à gérer.
Voilà, on entendait les témoignages de personnel soignant recueillis ces derniers jours. Après 3 mois de grève aux urgences, le gouvernement a finalement décidé de débloquer 70 millions d'euros de mesures immédiates pour tenter d'apaiser la situation. La ministre de la Santé, Patrick Bourdillon, a finalement entendu le malaise des urgentistes, vous qui avez assisté à la réunion de ce matin.
On peut estimer en tout cas qu'il y a une forme d'écoute, si c'est fait d'entendre, puisque la démarche en tout cas de vouloir débloquer des fonds, c'est une démarche qu'on peut qualifier de louable, sauf que la démarche de réfléchir à débloquer cette vive de somme lorsqu'on sait qu'il y a 600 services d'urgence en France et que ça correspond à peu près à 350 postes qui vont pouvoir être débloqués, sans avoir non plus une pérennité de financement, ni une logique en tout cas, qui est une logique de vouloir rentrer dans une démarche, de pouvoir répondre à la première des sollicitations qu'on lui a posées ce matin, c'est celle de savoir comment est-ce qu'elle est financée. En dehors de l'aspect uniquement ponctuel et l'aspect immédiat, c'est surtout cette démarche-là, en tout cas, qui correspond pour nous à une non-réponse. C'était pas la seule revendication.
Une large part de cette somme sera tout de même consacrée à une prime de risque qui sera versée à tous les professionnels des services d'urgence, hormis les médecins. Ça faisait partie des revendications, Patrick Bourdillon?
Les revendications ne sont pas posées en l'état, elles étaient de trois ordres. Tout d'abord, c'est d'avoir des revalorisations salariales avec une reconnaissance de ce qu'est la pénibilité de ce métier. Ça, c'est un élément tangible sur lequel les professionnels étaient très axés. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a un réel déficit en matière de salaire dans la fonction publique hospitalière, en tout cas. Donc cet élément était s'est posé comme un élément central. Mais il y avait deux éléments qui sont tout autant importants, qui est celui qui correspond à minima à la non-fermeture de lits pour permettre d'éviter l'engorgement des urgences. Donc là, on attend des réponses plus fortes de la part du gouvernement, notamment en termes de financement de l'hôpital public, puisqu'on ne peut pas se dire qu'on ne va pas fermer des lits ou ne pas répondre aux organisations comme elle l'a fait ce matin, sans se mettre dans la situation de dire qu'on ne solutionnera pas le problème. Et en l'occurrence, lorsqu'on lui a posé la question sur l'éventualité d'une modification du prochain PLFSS qui permettrait d'intégrer une augmentation de budgétaire, en tout cas pour faire fonctionner les établissements, et ne pas mettre, parce que c'est un peu notre crainte, ne pas mettre les versements d'argent qu'elle fait sur le sol des hôpitaux sans avoir de vrai financement derrière pérennisé, ces éléments-là ne sont pas suffisants.
Vous soulevez énormément de questions. Patrick Bourdillon, en l'occurrence, Agnès Buzyn a refusé d'accorder une prime exceptionnelle de 300 euros au personnel des services d'urgence en déclarant, je cite, « les problèmes ne vont pas se régler parce que je paye davantage ». Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Da Silva ?
La première chose que je souhaiterais dire est que le cas des urgences est une manifestation d'un phénomène qui est beaucoup plus global de crise dans le monde de la santé et que d'autres institutions sont touchées. On parle aujourd'hui des urgences, mais on parlait hier des EHPAD, de la psychiatrie, des maternités et d'autres services qui ferment les uns après les autres. Et donc évidemment que même si on peut souligner l'effort qui a été fait, il est absolument insignifiant par rapport au budget de l'assurance maladie et au budget consacré aux soins en France, qui est d'environ 200 milliards d'euros.
Mais ça montre que le diagnostic n'est pas le même selon d'où l'on se situe. Selon le gouvernement, la crise est liée à un problème d'organisation et non à un manque de moyens. Zaina Briet, vous partagez ce constat ?
Alors, permettez-moi d'abord de vous, puisque nous sommes dans une émission économique, de vous rappeler quelques éléments et le poids de l'hôpital dans le dispositif. D'abord, rappeler que l'hôpital public prend en charge 7 millions de patients par an en hospitalisation et qu'il réalise plus de 12 millions de séjours. C'est soit 60% de l'activité nationale. Et que malgré ces temps de crise et de tension, les patients sont accueillis, sont pris en charge et je tiens d'ailleurs à saluer l'ensemble des équipes qui assurent cette continuité de prise en charge. Rappelez aussi que l'hôpital, c'est aussi à 96% lui qui assure les prises en charge extrêmement complexes et aussi les patients très lourds. Et que par ailleurs, l'hôpital public est aussi créateur de valeur et notamment de valeur économique. 1 euro dépensé par un hôpital, c'est 2 euros qui sont redistribués dans l'économie locale, régionale et nationale.
Alors là, ça fait partie des critiques qui ont pu émerger autour de la question de est-ce que l'hôpital doit être rentable ou non.
Alors j'y viens. Alors peut-être que avant de se poser la question de savoir si l'hôpital est rentable ou pas, peut-être est-il important de se poser la question pourquoi la situation financière des hôpitaux en est là aujourd'hui et pourquoi elle se dégrade. En fait, il faut revenir à un mécanisme qui est tout à fait très chaque année qui est voté, qui est l'objectif national des dépenses de santé. Il se trouve que cet objectif national de dépenses de santé, non seulement ne répond pas forcément à l'ampleur des dépenses de santé, n'est pas corrélé, mais qu'en plus il y a un mécanisme dit de responsabilisation des acteurs de santé, c'est-à-dire qu'on fixe des objectifs à tous les acteurs de santé au sein d'une enveloppe, et que normalement, il y a des gels, on gèle certains crédits de cette enveloppe, qui sont ou pas restitués aux acteurs qui ont rempli leurs engagements.
Mais ce qu'on constate, c'est quand même que c'est sur l'hôpital public que pèse en premier lieu la volonté de réduire les dépenses publiques. Aujourd'hui, Zeina Briet, plutôt qu'à la médecine de ville.
Eh bien, parce qu'il se trouve que depuis quelques années, et notamment l'année dernière et cette année, ce sont les établissements de santé qui ont rempli leurs objectifs, et c'est à eux qu'on a demandé d'assumer le dépassement venant de la ville par ce mécanisme d'enveloppe, pour rester au sein de l'objectif national de dépenses de santé.
Donc on demande des économies à l'hôpital public et en même temps, Patrick Bourdillon, ce qu'on constate, c'est que les dépenses de santé augmentent et le cas des urgences est assez emblématique sur le fait que le nombre de patients qui arrivent aux urgences augmente lui aussi.
Oui, c'est emblématique en termes de nombre de passages, certes, mais la démarche en tout cas d'avoir un premier recours qui est celui des urgences est évidente dans un paysage où depuis 2002 il y a une logique en tout cas de permanence des soins qui fait que la médecine dite libérale n'est pas dans la contrainte dans l'obligation de pouvoir assurer des permanences sur des périodes et des plages horaires qui sont des plages horaires qui correspondent à des nécessités de santé publique. Je pense notamment le week-end, je pense la nuit. Donc oui, l'hôpital, à un moment, est la seule lumière ouverte dans la nuit qui permet d'y accéder. Sauf que la réalité derrière, c'est que la contrainte budgétaire qui est posée par l'ONDAM et la contrainte budgétaire qui est posée surtout par son sous-dimensionnement hospitalier, hein, parce que l'ONDAM, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas un dimensionnement unique. Il y a plusieurs ONDAM. Il y a l'ONDAM de ville, il y a l'ONDAM du secteur privé.
L'ONDAM, l'objectif national de croissance des dépenses d'assurance maladie.
Et c'est son augmentation qui est un enjeu, en tout cas un enjeu majeur. C'est ce dont je parlais tout à l'heure quand on disait que la ministre ne répond pas à la sollicitation de financement. C'est là-dessus qu'elle ne répond pas.
Mais alors justement, depuis 2010, les dépenses d'assurance maladie ne peuvent augmenter de plus de 3%. Nicolas Da Silva, l'année 2010 constitue une véritable rupture sur ce point ?
À mon avis, non. Pour une raison assez simple, c'est que en France, l'austérité à laquelle est voué l'hôpital et le monde de la santé démarre bien avant et démarre juste après le mouvement de construction et de modernisation de la construction hospitalière dans les années 60-70. Ça commence dès les années 80, où on commence déjà à vouloir réduire les budgets, vouloir maîtriser les dépenses, comme on dit ça aujourd'hui. Mmh. Alors, c'est une façon de poser le problème qui est une mauvaise façon, parce que le problème est posé autour du fameux mythe du trou de la sécu. C'est un faux problème. C'est un faux problème, pourquoi ? Parce que la question n'est pas tant de savoir si l'on dépense trop, mais qu'est-ce que l'on fait ? Sur ce point, je vous rejoins, madame, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question, quelle est la production du système de santé, de l'hôpital en particulier ? Jamais, jamais, on ne dit de l'industrie automobile qu'elle dépense ceci ou cela. Non, on dit, voilà, elle produit tant de voitures, de camions, etc., etc. On devrait faire la même chose pour l'hôpital, qui est une activité économique comme une autre, et qui, en fait, elle est une activité économique qui est de très bonne facture.
Et en même temps, ce que reproche un certain nombre de personnels soignants au fonctionnement actuel de l'hôpital, c'est précisément cette pression à l'efficacité, à la rentabilité. C'est cela, Zeynep Brahim ?
Oui, je pense que la démonstration a été faite, que l'hôpital public a été au rendez-vous ces dernières années des efforts de performance et des efforts d'économie, certes. Et il nous faut absolument entrer désormais dans un système qui soit vraiment responsabilisant et qui donne du sens. Et c'est vraiment tout le système de régulation de l'ONDAM, pardonnez-moi, mais pour vos auditeurs, qui est mis en cause. Parce que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concrètement que les équipes ont la sensation de toujours travailler plus, avec toujours moins, et donc d'être en difficulté permanente et de ne pas pouvoir mettre en œuvre les projets qu'elle pourrait mettre en qu'elle sollicite pour toujours améliorer l'accompagnement, l'état de santé des personnes. C'est ce mécanisme-là qu'il convient de revoir.
Mais alors selon vous, qui devrait déterminer combien coûte une activité hospitalière, un acte hospitalier? Ça ne devrait plus être du coup dans le cadre de cet objectif national de croissance des dépenses d'assurance maladie?
Pardonnez-moi, nous savons combien coûte. Hein, non, attendez, il y a une distinction. Nous savons pertinemment quels sont le coût de nos prises en charge et quels sont le coût de nos pathologies. Il s'agit plus, vraiment, d'un choix de société, d'un débat politique en ce qui concerne l'objectif national de dépenses annuelles en matière de santé. Manifestement, l'objectif national qui est fixé est chaque année inférieur à l'évolution tendancielle des dépenses. Mmh. Et il convient de préciser que les dépenses sont maîtrisées dans les hôpitaux publics. Moins de 1% d'évolution des dépenses en 2018.
Mais justement, comment expliquer cette évolution tendancielle des dépenses, Patrick Bourdillon ?
Mais la logique, c'est pas forcément dans l'explication tendancielle. La vraie question qui se pose, c'est un déterminant chiffré par rapport à un déterminant humain. C'est-à-dire la logique dans laquelle on s'est mis depuis un certain nombre d'années, c'est d'avoir une réponse à la dépense qui correspond en forme de carcan. On s'est dit quelque part, il faut pas dépenser plus d'argent. On s'est pas posé la question de ce qu'est l'offre par rapport à la demande par rapport à l'offre. Mmh. La logique, à un moment, c'est de déterminer est-ce que si on arrive à évaluer le coût d'une vie et pas le coût d'une activité, qui sont deux choses différentes, on peut arriver à déterminer combien il faut dépenser pour sauver une vie. C'est pas le cas, on est humain, à un moment la logique financière n'est pas arrivée encore à ce niveau-là, elle a tendance à y aller, mais elle n'y est pas encore, sauf que la démarche est dans la logique de financement qui est celle de l'ONDAM, en tout cas, on est sur une démarche où on a une contrainte de la dépense qui est fixée parce qu'on veut absolument réduire la recette. Ce n'était pas le cas, en tout cas, au sortir du Conseil national de la Résistance, quand la Sécurité sociale a été inventée, avant 1995, où la démarche était de dire on adapte et on module la cotisation en fonction des besoins de dépenses. En tout cas, politiquement, la décision s'est inversée. Mmh. Donc, cette contrainte, elle est fixée par rapport à ça.
Et puis, il y a un aspect qui joue beaucoup aussi dans la souffrance et le malaise des personnels soignants, c'est la tarification à l'activité qui a été mise en place en 2004. L'objectif, pour bien comprendre, Nicolas Da Silva, c'était de mieux ajuster les financements aux besoins réels des hôpitaux dans un objectif justement d'économie budgétaire.
C'était l'objectif sur le papier, ce qui n'a manifestement pas été fait. J'espère que vous m'excuserez, mais j'aimerais revenir juste un instant sur la question du budget et cette dimension de choix politique et non économique ou financier. Ça ne veut pas dire que les financements, les coûts, les dépenses ne comptent pas. Ce n'est pas un économiste qui dira ça. Mais j'aimerais simplement rappeler une chose qui est très importante, quitte à étonner. Nous n'avons jamais été aussi riches en France. Jamais le niveau de la richesse nationale n'a été aussi élevé. Et pourtant, on nous dit qu'il serait impossible de donner les moyens aux hôpitaux pour travailler. Mais c'est aussi le cas aux universités, c'est aussi le cas dans de nombreux domaines.
Mais c'est aussi parce qu'on préfère ne pas augmenter le remboursement sur les soins, on préfère faire peser un certain nombre de contraintes budgétaires sur l'hôpital.
Bien sûr, mais du coup, il faut se poser la question un petit peu autrement. Lorsqu'a été créée la sécurité sociale telle qu'on la connaît, il y a des antécédents avant, mais telle qu'on la connaît en 1945, s'il avait fallu attendre l'avis des économistes, S'il avait fallu faire un bilan coût-avantage, un coût-efficacité, s'il avait fallu parler de performance, jamais on n'aurait fait la sécurité sociale. Pourquoi on a fait la sécurité sociale en 45? On l'a fait parce qu'on l'a décidé. On l'a décidé politiquement dans le cadre de conflits sociaux importants.
Mais ce qui n'exclut pas non plus cette idée de performance économique, comme vous l'avez dit, et en l'occurrence, c'était vraiment l'objectif de la tarification à l'activité, Zeynab Rieh.
Oui, moi je pense que la tarification à l'activité n'est pas le problème. La tarification de l'activité est un outil. Le vrai problème, c'est le mode de répartition et c'est le montant de l'enveloppe nationale que l'on consacre aux dépenses de santé. Les limites de la T2A, nous les connaissons. Quelles sont ces limites? Ces limites, elles sont liées au développement de prise en charge pour les patients souffrant de maladies chroniques et pour la coopération qui est nécessaire compte tenu, par exemple, des enjeux de démographie médicale qui imposent aux établissements de coopérer. Or, la T2A ne permet pas de financer ni la coopération, ni la coordination, et de fait ne finance pas non plus, ne permet pas de déterminer de la pertinence. Vous voyez, ce sont les limites. Donc je dirais qu'il y a trois limites à la T2A, la coopération, le financement des pathologies et des parcours de santé pour les patients chroniques et les personnes âgées, et la pertinence des actes et des prises en charge.
D'où la volonté du gouvernement aujourd'hui de réformer cette tarification à l'activité. Il y a eu une prise de conscience de ses limites, de ses effets pervers.
Alors attention à l'arbre qui cache la forêt. Que l'on corrige les limites de la T2A, oui. Mais ce qu'il convient de réformer, c'est véritablement la régulation et le pilotage de l'ONDAM. Je rappelle quand même qu'en 15 ans, c'est 8 milliards d'économies que nous avons réalisées.
Oui. Et alors, par quoi passerait cette réforme de l'ONDAM, Patrick Bourdillon? Comment réformer ce pilotage?
Mais la vraie réforme, c'est à nouveau la réponse aux besoins. Je vais renvoyer un peu dos à dos ce qu'est la réponse humaine à une nécessité qui est la nécessité de soins, à ce qu'est la réalité économique et la volonté politique telle qu'elle est posée. Sans volonté politique, il n'y a pas de réalité économique. La base, en tout cas, c'est soit on détermine que c'est un axe majeur et une volonté du gouvernement de souhaiter mettre le paquet, excusez-moi de le dire comme ça, mais mettre le paquet sur ce qu'est la réalité, qui est la réalité humaine, et des besoins que nous tous nous partageons, sont des besoins de santé, sont des besoins de proximité, et surtout derrière se dire de quelle façon est-ce qu'à un moment ce gouvernement actuel se met dans la logique de dire je vais essayer de desserrer cet étau qui empêche en tout cas, et je partage totalement ce qui a été dit, l'hôpital public qui est un pivot et surtout qui est le centralisateur de l'activité de soins, notamment l'activité de soins techniques, mais aussi un élément acteur de l'économie des territoires. Juste un mot pour... Je sais pas être trop long, mais l'hôpital public, l'offre de santé, pour nous, c'est un élément, en tout cas, d'aménagement du territoire. Une entreprise s'installera pas sur un territoire s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de
travail.
C'est
un enjeu absolument essentiel, en effet, et qui a été discuté dans le cadre du projet de loi santé dont on va parler dans un instant. Mais d'abord, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que le financement de l'hôpital public est aussi touché par la suppression des cotisations salariales maladie, qui est intervenue au 1er octobre 2018, et qui ne semble finalement pas devoir être compensée. Nicolas Da Silva, la baisse des cotisations sociales va peser encore davantage sur la sécurité sociale?
C'est évident. Et ça participe de ce que je disais tout à l'heure à propos du mythe du trou de la sécurité sociale. Cette dimension mythologique, elle vient de l'absence de souvenirs sur la façon dont a été construite l'institution, mais aussi sur l'absence de souvenirs sur la volonté politique continue d'attaquer la cotisation sociale et les formes de financement de la sécurité sociale. Et cela encore, ce n'est pas quelque chose de récent. Souvent, on attribue à la crise de 2007 et ensuite 2010 beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui et qui seraient liées à ce contexte tout à fait particulier. C'est totalement faux.
Ce que vous voulez dire, c'est que le déficit structurel de la sécurité sociale n'est pas un problème en soi, n'est pas un problème économique, de la même façon qu'on peut dire que la dette publique n'est pas forcément un problème économique. Enfin, il y a un débat autour de cette question.
Ce que je dis, c'est que ce déficit est construit, il est décidé. Il est décidé comment ? Lorsqu'on décide de supprimer les cotisations sociales, de ne pas les remplacer, lorsque on mène une politique au nom de la lutte contre le chômage, mais le chômage ne baisse pas, chacun l'aura vu. Parce que quelle est la justification de ces suppressions de cotisations sociales ? Elles se font au nom de la lutte contre le chômage, parce que des salaires moins chers reviendraient à embaucher plus. Ça n'a jamais été démontré dans la théorie économique. Dans la théorie, oui, mais pas dans l'analyse empirique. Et c'est aussi, légitimé par l'idée selon laquelle la baisse des cotisations nous permettrait d'être plus compétitifs à l'international. Encore une fois, ça n'a jamais été démontré. Mmh. Et c'est quelque chose qui est dit depuis des années. Des années. Dès 1945-46, on entend à l'Assemblée nationale, par exemple, Paul Reynaud, qui est un grand homme politique de la Troisième République, qui revient sous la Quatrième et qui nous dit, que nous dit-il ? Il nous dit, mais vous voulez faire la sécurité sociale avec une concurrence avec les Japonais qui, comme leurs ancêtres, ne mangent qu'un bol de riz. À l'époque, c'est les Japonais. Aujourd'hui, on vous dirait les Chinois. Mmh. C'est rien de neuf.
Alors c'est intéressant ce que vous dites ici, Nicolas Da Silva, ça pose beaucoup de questions et notamment ce qu'on observe, Zeina Briet, c'est que aujourd'hui donc on demande toujours plus d'économies à des hôpitaux qui voient leur déficit se creuser. Or non seulement les tarifs des actes pourraient baisser, mais le nombre d'actes aussi pourrait diminuer ou du moins ne pas augmenter suffisamment. Il y a un équilibre à trouver ici.
Peut-être qu'il est temps d'essayer de faire entrer des prises en charge dans un financement et renverser le raisonnement. C'est-à-dire que forcément les prises en charge évoluent. Comme on a pu le constater, on reste de moins en moins à l'hôpital, mais on y reste pour des moments importants. Mmh. Et donc il est vrai qu'aujourd'hui, la façon dont sont calculés les tarifs qui rémunèrent l'activité de médecine, d'obstétrique et de chirurgie, dites activités de court séjour.
Des activités qui sont de plus en plus chères à cause des progrès thérapeutiques, notamment.
Oui, qui sont d'ailleurs financées par la T2A. La T2A s'applique à ce secteur dit de MCO dans notre jargon, médecine, chirurgie, obstétrique. Le calcul de ces tarifs conduit à avoir des tarifs qui sont complètement déconnectés de la réalité du coût de la production du soin, si on peut s'exprimer ainsi.
Et alors comment l'expliquer ?
Eh bien, comment l'expliquer ? On l'explique de la façon suivante. Ce que nous avons compris, c'est qu'à la fois, en tout cas ça a été le cas ces deux dernières années, à la fois il y a une prévision de volume d'activité qui est surestimée pour pouvoir rentrer dans l'objectif national de dépenses de santé in fine qui va être attribué aux établissements. Et de fait, les tarifs baissent. Mais ils baissent uniquement dans cette logique purement mathématique. Voyez, et au bout d'un moment, forcément, il y a un manque à gagner en matière de recettes. Et je ne connais pas un organisme, une structure ou une entreprise qui accepterait de travailler pour un prix de vente inférieur à son coût de production, ne serait-ce même pour le vente. En fait, on arrive à cette incohérence.
Alors même que ce qui est souvent dénoncé à Patrick Bourdillon, c'est le fait que les logiques du privé sont de plus en plus présentes dans l'hôpital public.
La logique de façon politique, la logique structurelle de financement de l'hôpital public est une logique privée. Faut pas se leurrer. On est sur cette démarche-là. Donc oui, on est sur une démarche effectivement où il y a une logique de production et de coût de production et une logique de coût de vente.
Oui, mais ce que nous explique Zeina Briet, c'est que ce n'est pas rentable, c'est que ce n'est pas intéressant, que le privé n'accepterait pas ce fonctionnement, par exemple.
Tout à fait.
Zeina Briet. Pardonnez-moi, moi je ne partage pas complètement ce point de vue. Ce que j'essaye de vous dire juste, c'est qu'il est normal que l'on détermine des coûts. Nous sommes responsables, il s'agit quand même de deniers de public, il est tout à fait normal de déterminer des coûts de prise en charge et d'assurer des gestions vertueuses et une prise en charge vertueuse. En revanche, ce que j'essaye de vous dire, c'est que si on méconnaît la réalité des coûts, des prises en charge et leur évolution, par exemple, aujourd'hui, vous avez une grille de rémunération et de valorisation des actes techniques, les actes de radiologie, qui n'a pas été revu depuis des années. alors qu'on sait pertinemment aujourd'hui qu'on a besoin de valoriser des actes intellectuels, c'est-à-dire le temps que consacre le médecin à expliquer une pathologie chronique, à expliquer un traitement. Et ça, aujourd'hui, c'est pas valorisé. Vous voyez, donc il y a vraiment, j'ai envie de dire, un travail de modernisation, d'actualisation et un travail de mettre en adéquation les prises en charge, leurs coûts, parce qu'elles ont un coût, et puis les modalités de financement.
Il y a un décalage important pour vous aussi, Nicolas Da Silva, entre ce tarif et le coût réel des actes hospitaliers.
Ce qui semble évident, c'est que les fonds alloués aux établissements de santé ne sont pas suffisants pour qu'ils fassent leur travail dans de bonnes conditions, à la fois pour les patients et pour les personnels. J'ai dit tout à l'heure que ce qui était important, c'était l'ONDAM. La T2A, la tarification à l'activité, est importante, mais elle est seconde comme problème de mon point de vue. Pourquoi elle est seconde? Parce que, imaginons un seul instant que la ministre décide de doubler tous les tarifs, il n'y aurait plus de problème. Alors, de quoi participe la T2A? Elle participe de l'approfondissement de ce qu'on pourrait appeler une industrialisation de la santé et de la délivrance des soins, parce qu'elle participe de la quantification de l'activité de soignant. Ça, c'est quelque chose qui est très spécifique à la T2A, c'est-à-dire qu'on va compter la façon dont on travaille.
Et c'est ce qui explique le malaise des soignants.
C'est une des choses qui explique le malaise des soignants, parce que on va compter non seulement vont se développer tout un tas de référentiels de pratiques, mais aussi vont se développer des pressions en termes de temps, ce qui se traduit dans les enquêtes de souffrance au travail, où on voit qu'il y a une intensification du travail, tant dans la dimension des contraintes physiques, hein, et plus de rythme, mais aussi des contraintes psychologiques, parce que les personnels sont amenés à faire des choses qu'ils ne souhaiteraient pas faire.
Et du coup, il y a une perte de sens à laquelle on assiste, Patrick Bourdillon?
C'est une totale perte de sens, et surtout une perte de repères qui sont simplement basés sur une logique, c'est que oui, avoir la volonté dans les services, et c'est un peu le péché originel, on va dire, de la façon dont on travaille maintenant, c'est la loi HPST, avec une forme de balkanisation qui a fait qu'on a créé des pôles où on était sur une logique où on rend responsable chaque secteur à sa propre activité, son propre budget. En fait, je vais vous dire un peu différemment, mais rentrer dans une logique où on se dit que le soin, quelque part, doit avoir une notion comptable des choses, quelle est une notion dans son budget, dans son analyse, dans sa gestion, qui soit une gestion qu'on peut qualifier de vertueuse, je peux l'entendre, mais surtout qu'on peut qualifier d'efficace par rapport à un besoin. Et la première des choses, c'est avoir la réponse à un besoin, c'est un élément clair. Mais derrière, les soignants sont contraints, oui, parce qu'à un moment, la logique, qui est une logique comptable, ne rentre pas dans le processus de soins. Pourquoi? Parce que le dialogue ne permet pas forcément de quantifier. Et le soin à 80%, c'est du dialogue.
Et alors, le projet de loi santé qui est actuellement en discussion, peut-il répondre à ces inquiétudes? On en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Rocchini. There's a disease going round the hospital. Green, green leaves falling from the trees. There's a disease going round the hospital. There's a disease going round the hospital. Green, green leaves falling from the trees. There's a disease going round the hospital. Green, green leaves falling from the trees. You got. Yeah.
Vous écoutez Hospital du groupe américain The Lemonheads sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Nous poursuivons notre discussion sur la crise de l'hôpital public en compagnie de Nicolas Da Silva, Patrick Bourdillon et Zaïna Briet. Alors le projet de loi Ma Santé 2022, adopté en première lecture cette semaine par le Sénat, prévoit un certain nombre de mesures, suppression du numerus clausus, labellisation de 500 à 600 hôpitaux de proximité, régularisation de médecins étrangers, pour ne citer quelques-unes de ces mesures. Que pensez-vous d'abord de l'esprit général de cette loi, Zaïna Briet?
Alors, l'esprit général, c'est de dire que cette loi va dans le bon sens. Pourquoi? Car nous avons enfin compris que les difficultés que rencontre l'hôpital sont liées au dysfonctionnement du système de santé. Et que c'est donc une réforme systémique du système de santé dont nous avons besoin. Parce que d'une part, il y a difficulté d'avoir accès aux soins dits de premier recours, avoir accès à un médecin traitant, et que d'autre part, le fait d'avoir difficilement accès à un médecin traitant peut entraîner un afflux aux urgences. C'est ce qui se passe sur certains territoires. Et ce qui entraîne d'ailleurs les difficultés, les tensions que nous vivons. Donc c'est important de le rappeler. C'est important de rappeler que ce sont les carences de l'ensemble du système de santé qui pèse sur l'hôpital public. Alors, en revanche, ce qui nous apparaît qu'il manque dans cette loi, comme nous l'avons évoqué depuis tout à l'heure, c'est qu'il n'y a rien en ce qui concerne la gouvernance nationale et la régulation du système de santé. Nous avons, la Fédération hospitalière de France, proposé que nous ayons un système de régulation qui soit unifié. Les pouvoirs publics pousse au décloisonnement dans les territoires, et c'est normal, et c'est très bien que la ville, l'hôpital travaillent ensemble.
L'un des enjeux, c'est ça, c'est d'articuler la médecine de ville et l'hôpital
tout
public.
À fait. Alors que l'État montre l'exemple du décloisonnement de ses administrations. Et que l'on puisse avoir, au service de la ministre de la Santé, par exemple, l'ensemble des acteurs pour avancer sur ces sujets. L'autre aspect, pardonnez-moi, il s'agit de l'attractivité. Et de l'attractivité et médicale et paramédicale. Ce qui est très difficile aujourd'hui pour les équipes, c'est de vivre ces écarts de rémunération, notamment par exemple entre le secteur public et le secteur privé.
Et là-dessus, il n'y a pas de réponse suffisante à vos yeux dans ce projet de loi?
En tout cas, il n'y en a pas pour la paramédicale.
Patrick Bourdillon, sur l'esprit, la philosophie de cette loi, vous trouvez qu'elle va dans le bon sens, comme le disait Zaïna Briet?
Alors, peut-être quelques nuances, parce que la loi, elle est ce qu'elle est, mais avec derrière, il y a un objectif qui est un objectif, même si on peut partager la volonté, parce que la volonté, en tout cas, de vouloir faire travailler la ville et l'hôpital ensemble, c'est une volonté, en tout cas, en termes d'efficacité, qui peut que l'être, sauf que la mise en œuvre ne correspond pas à ça. La première des réalités, en tout cas, c'est ce qu'on a soulevé ce matin, par exemple, chez la ministre de la Santé, c'est très clairement quid de la permanence des soins et de l'obligation qu'ont les médecins généralistes à assurer la permanence des soins sur des plages horaires suffisantes pour éviter que le recours à l'hôpital ce soit le seul recours. Alors moi, cette réalité, je la pose comme un exemple, mais c'est l'exemple et c'est peut-être le défaut qu'on va retrouver dans cette loi, avec une démarche qui nous semble encore plus inquiétante dans une crise des urgences qui est une crise posée et qui est une crise en tout cas qui risque de s'amplifier, qui est de vouloir créer des hôpitaux de proximité, non pas avec ce joli mot proximité, mais surtout avec le fait qu'on va enlever des services d'urgence des hôpitaux, les fermer, enlever des maternités, enlever des services de chirurgie.
Ces hôpitaux de proximité, ils sont censés répondre à un problème, c'est le fait que, selon la Cour des comptes, il y aura à peu près 20% de patients qui arriveraient aux urgences et qui pourraient être pris en charge le jour même par un médecin généraliste en ville ou le lendemain. C'est à ce problème que ces services cherchent à répondre?
Non, pas seulement. Je pense que la réponse après ce qui est l'ouverture du numerus clausus, puis vous faites allusion à ça, le numerus clausus de formation des médecins, c'est une bonne réponse. Sauf que la réalité, c'est qu'ouvrir un numerus clausus, si on n'augmente pas le nombre de places dans les université, c'est vouloir mettre 10 dans un lit, ça ne marchera pas mieux. La réalité est aussi sur une volonté de ne pas uniquement s'attaquer à la problématique de formation, mais à la possibilité de volume de formation. Et derrière, il y a un autre élément qui pour nous est très important, c'est le numerus clausus d'installation. Les médecins ont une liberté d'installation. Est-ce que la réalité, c'est que la société puisse dépenser sur les deniers publics des centaines de millions d'euros pour former des professionnels à qui on ne demande pas de contrepartie?
La suppression du numerus clausus, c'est susceptible de répondre au manque de médecins, mais c'est une mesure qui ne va pas assez loin. Vous êtes d'accord avec Patrick Bourdillon et Nicolas Da Silva?
Alors, je ne voudrais pas être brutal, mais ce que je dois dire, c'est qu'à mon avis, il n'y a rien dans ce projet qui permettent d'améliorer la situation, que ce soit à court ou à moyen terme. Par exemple, sur la question du numerus clausus, le fait qu'il soit, amélioré, augmenté, supprimé, ne veut pas dire qu'on va former les médecins. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Mais pas de limite, ça ne signifie pas combien on va en former. Or, il faut beaucoup de temps pour former des médecins. Et en ce moment, nous sommes en train de souffrir la politique qui a été de diviser par deux le numerus clausus dans les années 80 et 90. Et demain, la problématique des déserts médicaux ne sera pas solutionnée. Par ailleurs, cette question de mieux faire travailler la ville et l'hôpital, c'est une question qui n'est absolument pas neuve. La question des réseaux de soins, du parcours de soins coordonnés, tout cela, ce sont des choses qui sont ressorties et mises au goût du jour régulièrement. Mais dans les faits, on ne voit rien qui permette de remettre en cause ce qu'on peut dire être une crise globale.
Mais ce qu'il faut expliquer, c'est que sur un plan économique, Zainab Riel, les hôpitaux y perdent si jamais ils incitent les patients qui viennent chez eux et qui souffrent de pathologies légères, s'ils les incitent à aller voir des médecins de ville, ça représente un manque à gagner pour les hôpitaux ?
Non, je crois qu'il faut pas voir cela en ces termes-là, pas du tout. Là, l'enjeu de la proximité, nous avons une société qui vieillit et nous avons des pathologies chroniques qui se développent. Ce que réclament les Français, c'est d'avoir accès aux soins. Parce que je rappelle que par ailleurs, nous avons des inégalités d'accès aux soins et des inégalités d'accès en matière de santé. Et donc, des populations aussi qui arrivent souvent tardivement à l'hôpital parce que leur état de santé s'est dégradé et donc qui, à juste titre, arrivent par les urgences et font l'objet d'hospitalisation. Et s'il y avait un sujet de rémunération, comme vous l'évoquez sur les prises en charge, c'est vrai que, comme nous le disions tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument adapter les financements à l'évolution des prises en charge. Lorsque l'on décide qu'on développe des prises en charge ambulatoires, c'est-à-dire en hôpital de jour, où on reste pas la nuit à l'hôpital, il faut effectivement que la rémunération de ces prises en charge soit adaptée.
Alors il y a par exemple le député LREM de l'Isère, Olivier Véran, qui a envisagé de verser une incitation financière aux services d'urgence pour qu'ils réorientent vers la ville les patients les moins urgents, précisément. Qu'est-ce que vous pensez d'une proposition comme celle-ci, Patrick Bourdillon ?
Mais je pense que d'abord, il faut peut-être recentrer le sujet. Les urgences sont pas en tout cas un point d'appui d'entrée financière pour l'établissement hospitalier. C'est un point d'appui de patients concernant l'hospitalisation. Donc le sujet est pas tant à ce niveau-là. Le sujet est sur l'organisation des soins qui va effectivement permettre d'avoir un travail commun entre la ville et l'hôpital. Pourquoi ? Mais c'est la prise en charge primaire. C'est ce qui a été en tout cas posé par la loi qui était la loi dite de modernisation du système de santé, qui a été détournée de son contexte de façon violente. Pourquoi ? Parce que l'ONDAM s'en est mêlé. On va dire les choses telles qu'elles sont, même si le fond de la loi est pas mauvais. C'est pas le fond de la loi qu'on contexte. C'est la mise en application et les montants qu'on y met derrière. Si la ville fait son boulot et qu'à un moment la réalité c'est que le patient il peut s'adresser à son médecin traitant, mais il n'ira pas à l'hôpital. Il n'ira pas aux urgences, il va s'adresser à son médecin. Sauf que la réalité, c'est que le médecin n'est pas là. Le médecin n'existe
pas. Pour vous, on crée des hôpitaux de proximité pour répondre aux déserts médicaux, alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait davantage développer, ce serait quoi ? Ce serait de pousser la médecine libérale à davantage s'impliquer. Enfin, quelle forme est-ce que cela prendrait, Patrick Bourdillon ?
C'est pas forcément une forme en tant que telle. La réalité qui s'est posée, mais depuis 2002, quand il y a eu les grandes grèves, en tout cas de médecins généralistes qui ont refusé de rentrer dans la logique de permanence des soins, ça a été de leur laisser la liberté de ne pas le faire. Je peux l'entendre. Parce que travailler 70 heures par semaine, c'est un élément qui est extrêmement difficile pour les médecins. Il faut avoir cette contrebalance des choses. Sauf que la réalité, c'est qu'on est dans des logiques. Actuellement, on a de jeunes médecins qui sortent diplômés. Leur démarche n'est pas de vouloir faire de la médecine générale. Leur démarche est de pouvoir travailler un nombre d'heures balisées par semaine dans des centres de santé, d'ailleurs souvent des centres de santé publics s'ils peuvent. Pourquoi ? Parce que leur logique, c'est de se dire, je veux pouvoir avoir du temps libre et je veux surtout pouvoir être à un moment dans une structure qui nous permet aussi d'avoir des plateaux techniques derrière. Donc l'hôpital a toute sa valeur derrière dans ce mélange ville-hôpital.
Et en tout cas, ces hôpitaux de proximité, Nicolas Da Silva, pour vous, non plus, ça ne pourrait pas vraiment être une réponse aux déserts médicaux et à cette problématique qui est évidemment extrêmement ancienne.
Le problème, c'est que personne ne sait ce qui se cache derrière ce concept d'hôpital de proximité, puisque c'est à géométrie variable. Ce que j'aimerais dire, c'est que là, pendant notre discussion, nous avons beaucoup parlé de l'hôpital public, mais en souterrain, le symétrique de ce qui se passe ici, c'est le développement de l'hospitalisation privée. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que le monde de la santé n'est pas un sanctuaire à l'écart du capitalisme. Or, ce qu'on observe depuis des années, c'est la croissance et la concentration de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Donc on est en train de créer un système à deux vitesses, c'est ça que vous nous dites ?
Il est déjà là. on ne le regarde pas, mais il est déjà là. Comme on pourrait faire tout à fait une comparaison avec ce qui existe dans l'école secondaire et dans l'université. Hein, aujourd'hui en France, enfin il faut s'en rappeler, 24% des hôpitaux, des établissements, enfin des places pardon, sont du privé à but lucratif, 40% dans certains départements pour certaines personnes, dans certains cas, il n'y a pas d'échappatoire. C'est un premier point sur la façon dont le capitalisme s'investit dans la santé, mais cela, ça va plus loin que le monde de la santé. La façon dont s'organise l'hôpital, le grand hôpital et l'hôpital de proximité, ça rentre dans la logique qu'on appelle la logique de métropolisation, c'est-à-dire de concentration progressive de toutes les ressources, qu'elles soient publiques ou privées, dans des grandes villes, grandes métropoles, les hôpitaux, les transports en commun, les musées, les universités, mais aussi, évidemment, les emplois privés.
Les difficultés que traverse l'hôpital public actuellement risquent d'accentuer les fractures sociales, territoriales en France, selon vous aussi, Zeynep Brier?
Justement, c'est à cela que doit répondre la loi. Et pardonnez-moi, mais en ce qui concerne les hôpitaux de proximité, l'enjeu quand même, c'est justement parce qu'il faut éviter cette forte concentration au détriment de la proximité. Et qu'est-ce qui fait que, quoi qu'il en soit, il faut mieux réorganiser les soins, c'est que d'une part, vous avez un problème de démographie médicale, y compris à l'hôpital, hein, et que par ailleurs, vous avez une raréfaction des ressources. Et ce qu'il faut garantir aux patients, c'est que il a l'excellence des soins, quelle que soit la porte d'entrée et quel que soit le niveau. Donc le rôle de l'hôpital de proximité, c'est à la fois de pouvoir accueillir des plateaux de consultation, et notamment de consultation de spécialité quand il n'y en a pas. Parce que quand il n'y en a pas, c'est pas normal d'attendre un an pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste. C'est à la fois cela. Ça sert aussi de plateforme pour la médecine de ville, parce que ça permet aussi à des médecins de ville de venir s'installer, de pouvoir travailler en lien avec des équipes, de disposer d'un plateau technique. Et puis, ça permet à une personne, prenons une personne âgée qui a dû être opérée dans un établissement qui est très loin de chez elle. Et si ensuite, elle doit avoir un suivi en poste chirurgical, mais qui relève d'un séjour en médecine, elle peut avoir ce séjour en médecine proche de chez elle. Effectivement, il faut, et le but, c'est d'éviter totalement cette logique de concentration au détriment de la proximité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que la politique de santé se décline au plus près dans les territoires et que nous soyons vraiment dans une logique des territoires pour résoudre les problèmes d'inégalité d'accès aux soins.
Mais là encore, on peut se demander si ce sera bien appliqué ou de la bonne façon, Patrick Bourdillon, parce que ce qu'on constate, c'est que depuis des années, on a beaucoup de mal, justement, à déconcentrer l'offre de services médicaux et à faire venir des médecins dans des régions qui sont assez reculées.
Oui, mais il y a deux problématiques. La première problématique, c'est effectivement l'isolement de certaines régions sur lesquelles il est toujours compliqué d'avoir une offre de soins et d'avoir un abord, en tout cas pour des médecins qui nécessitent d'avoir des plateaux techniques derrière, mais d'avoir du répondant aussi derrière, parce qu'il n'y a pas que le plateau technique. Il y a aussi la possibilité de pouvoir vivre correctement. J'ai dit tout à l'heure, en termes d'aménagement du territoire, on est quand même sur des démarches où ce sont des humains qui vont s'installer quelque part. Donc s'installer sur la côte, c'est plus facile que s'installer dans la Creuse. Sauf que la réalité, c'est que la population vit aussi dans la Creuse. Sauf que derrière, il y a d'autres démarches, et en tout cas, c'est à nouveau un des effets pervers des dernières lois qui sont sorties. Donc que ce soit la loi qui est en train d'être discutée, soit la précédente, ou même la loi HPST, la démarche d'avoir enlevé une logique, en tout cas, qui nous, la CGT, nous semble évidente, c'est celle de l'interrogation et de la décision qu'a le politique sur son territoire. Alors, au moins, les conférences de territoire qui permettaient à des politiques d'avoir une vision de ce qui est sur leur propre territoire ont été transformées en plan régional de santé, ou quelque part, c'est l'ARS qui va déterminer un cadastre en fonction de critères techniques et de barèmes qui correspondent à un certain nombre de logiciels dont ils disposent. C'est une chose. Sauf que le politique en tant que tel, c'est-à-dire l'humain qui va lui vivre sur ce territoire et qui va permettre, parce que ce territoire a des spécificités, notamment des spécificités territoriales, je pense géographiques, je pense à des montagnes, je pense à des lieux où il y a des difficultés de circuler, ne peuvent pas être traités de la même façon. D'où l'intérêt de l'approche. La plus proche
la
possible.
La plus locale possible, c'est ce à quoi vous appelez.
Mais si on extrait le politique et le décideur local de cette décision-là, à un moment, on pêche. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que la réponse, elle est toujours ambivalente.
Et alors aujourd'hui, l'été arrive et la saturation des urgences pourrait s'aggraver dans les mois qui viennent. C'est une inquiétude qui a pu être soulevée par un certain nombre de personnels de soins. Il y a une inquiétude particulière pour la période estivale qui s'annonce, Patrick Bourdillon.
La période est extrêmement inquiétante. Enfin, Météo France nous annonce une canicule. Nous, ce qu'on voit, c'est que les établissements n'étant plus du tout dans la logique de pouvoir financièrement et surtout par rapport à leurs effectifs assumer l'intégralité, non pas de leur mission, mais de leur ouverture de lit. Se mettre dans des situations où il y a des fermetures estivales de lits, mais pour que les agents puissent prendre leurs vacances.
Parce que si on fait appel à des volontaires, ça coûte beaucoup plus cher.
C'est pas le problème. C'est pas le problème des volontaires. Le problème, c'est qu'à un moment, les volontaires vont être là aux urgences et à mon avis, c'est un emplâtre sur une jambe de bois que met la ministre. Sauf que la réalité, c'est que derrière, si on ne donne pas la possibilité aux établissements hospitaliers, en leur donnant les financements pérennes pour avoir les effectifs pour que les services restent ouverts, on aura le même problème de saturation.
Zéna Briller, sur cette situation estivale.
Je crois qu'il est temps, là, vraiment pour appréhender de la meilleure façon cette situation pré-estivale, c'est qu'il est urgent que dans les territoires autour des avec les agences régionales de santé, que nous ayons connaissance des cabinets de ville qui vont fermer, que nous puissions organiser autour des hôpitaux qui devront assumer le relais, qu'on puisse donner des moyens à mesure exceptionnelle, moyens exceptionnels pour assurer, renforcer les lits, renforcer les équipes, et puis ouvrir des lits de médecine si c'est nécessaire. Ça, c'est la première étape, et il faut absolument avoir cette cartographie en amont de cet été.
Alors, on va continuer évidemment à suivre les discussions sur ce projet de loi santé, discussions qui se poursuivront la semaine prochaine en commission mixte paritaire. Un grand merci, Nicolas Da Silva, Patrick Bourdillon et Zeina Briller, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Un grand merci à tous les trois.
Merci.
Vous écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Il est 14h45 sur France Culture et aujourd'hui nous partons à la découverte de la nouvelle cité de l'économie qui ouvre donc ses portes ce vendredi dans le 17e arrondissement de Paris. Notre guide s'appelle Xavier Limagne et c'est l'un des muséographes de Citeco. C'est lui qui nous a accueillis dans cet hôtel particulier transformé par la Banque de France en espace de savoir. Un mot peut-être d'abord, Xavier Limagne, sur ce lieu. C'est un hôtel particulier qui a été construit en 1878 à la demande d'un banquier, Émile Gaillard. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire?
Voilà. Alors, Émile Gaillard avait déjà un hôtel particulier dans le quartier et il était collectionneur d'objets du Moyen-Âge et c'était trop petit. Et donc, il a fait construire cet hôtel particulier pour mettre sa collection de portes, de boiseries, de cheminées et d'objets. Et donc, il a construit un hôtel particulier en U, néo-gothique, au 19e siècle, c'était à la mode, mais un peu atypique dans Paris, dans le tissu haussmannien. Et Émile Gaillard est mort en 1902, je crois, et donc pendant longtemps, le lieu a été fermé. La Banque de France l'a racheté en 1920 pour faire un lieu, une succursale. Et cette succursale, c'est pas n'importe quelle succursale, c'est la succursale, la Banque de France était aussi une banque d'affaires, la succursale de la Plaine Monceau, c'est-à-dire de la grande bourgeoisie industrielle, donc habitent là les Michelin, les Breguet, un certain nombre de grandes familles industrielles françaises qui ont besoin de mettre leur argent quelque part, et l'argent n'est pas encore dématérialisé à l'époque, donc il faut leur construire une salle des coffres extrêmement sûre et extrêmement prestigieuse.
Par quelle salle est-ce que vous nous conseillez de commencer, Xavier Limagne?
Ah ben voilà, nous sommes là dans le grand escalier, le grand escalier qui va mener à l'exposition permanente. Dans ce grand escalier, on a un spectacle de teasing en mapping vidéo qui est un peu surprenant. Alors, on se croit dans un château, on y croit d'ailleurs, mais il faut savoir que c'est en fait une structure Eiffel en métal et qu'à l'intérieur de ces poteaux qui semblent en pierre, on a une structure métallique. On a l'impression qu'on a une voûte au-dessus de nous qui est en pierre. En réalité, elle est suspendue par des tiges filetées, un plancher béton. Donc, c'est vraiment du néo, mais c'est tellement bien fait qu'on finit par y croire.
Alors, on va monter l'escalier et commencer peut-être
la première séquence consacrée aux échanges. Et donc, c'est un parcours en 6 séquences, mais on peut l'apprendre dans le désordre. Et cette première partie sur les échanges permet d'entrer dans le sujet de l'économie, de s'approprier le sujet.
Qu'est-ce que c'est que ce grille-pain qui se présente à nous, Xavier Limagne?
Alors, c'est une œuvre de Thomas Thwaites. Alors, Thomas Thwaites, il a essayé de faire un grille-pain lui-même. Il a acheté un grille-pain, on le voit là en vitrine, c'est son modèle. Et puis, il s'est dit, un grille-pain, c'est assez simple, je vais arriver à en faire un. Il a donc essayé de faire le plastique, l'acier. Donc, il est parti dans la mine. Il a essayé lui-même de faire un objet industriel, mais assez simple. Et en fait, il est arrivé à pas grand-chose. Et donc, c'est une œuvre que nous avons achetée et qui permet de dire que Non, on ne peut pas tout faire soi-même. On est dans une société hyper spécialisée où chacun a des talents spécifiques et on est incapable aujourd'hui de vivre de façon autonome sans les autres.
L'idée, c'est de passer par des œuvres, mais aussi des vidéos interactives, voilà, des jeux pour réussir notamment à faire venir les 15-35 ans, ce qui est l'objectif affiché de Citeco.
C'est l'objectif. Et donc, tout le parcours muséographique, ça a été notre travail avec l'agence Exposition, ça a été de rythmer ce parcours muséographique avec des surprises, avec des variétés. Dans une exposition permanente comme celle-ci, il y a à peu près 12 heures de contenu. Le visiteur, il passe 1h15. Et donc, ce que j'aime, c'est de voir comment chacun fait son menu de 7h30 et que, en fonction des jours, il va faire un menu différent. Donc, il y a une offre très riche et que l'important, c'est que chacun fasse un parcours intelligent qui lui donne surtout à penser, à réfléchir et à discuter. Là, on est dans le feu la chambre d'Émile Gaillard, qui fut le bureau du directeur. Une vidéo nous accueille pour nous parler de la rareté, de l'utilité à la confiance. Et puis, moi, je trouve qu'on a le droit à une petite gourmandise maintenant. On a droit d'aller dans cette salle où les mots de l'argent en argot sont prononcés et ils circulent en projection autour. Donc je vois copec, je vois blé, il y a comme ça un certain nombre du langage courant. Vous voyez, dans une salle comme ça, le public peut se dire, ben c'est des sujets que je connais, ah oui, on peut parler du vocabulaire sur l'argent, d'où vient-il ?
Et en même temps, nous sommes dans une salle de bain.
Et on est dans une salle de bain qui était la salle de bain du directeur. Vous pouvez voir la chose un peu particulière, c'est qu'il y a un coffre-fort dans le cabinet de toilette, en réalité, du directeur. Dans chacune des salles de l'hôtel Gaillard, on a trouvé un coffre-fort. On a évacué la plupart, mais on a conservé celui-ci. Les mots de l'argent sortent de ce coffre-fort.
Alors, on poursuit la visite dans ce dédale de pièces.
Et voilà, donc... et alors là, on arrive dans une petite pièce où trois éléments cohabitent. Donc, on a une grande sculpture avec des monnaies, beaucoup de formes de monnaies. Certaines sont atypiques, des coris, des billets, etc. Et donc, on en a fait une grande sculpture autour d'un jeu multimédia interactif sur le troc. Et donc, dans ce jeu... on échange avec les autres et puis on s'aperçoit au bout d'un moment que quand on donne à ce jeu la monnaie, on s'aperçoit qu'avec la monnaie, c'est beaucoup plus facile d'échanger que par le troc.
Hein. Xavier Limagne, est-ce que vous pouvez nous emmener à ce débat reconstitué entre Milton Friedman et Friedrich Hayek ?
On y va. On va les écouter en français.
Financière qui se transforme en crise économique généralisée. De nombreuses familles américaines ruinées par la chute de l'immobilier, puis de la bourse, vont se retrouver sans autre choix que de réduire fortement leur consommation.
Bien sûr.
Les entreprises alors vendent moins, elles cessent d'investir, puis débauchent. C'est l'engrenage de la crise. Plus le chômage augmente, moins les gens dépensent, et ainsi de suite.
Et la responsabilité des institutions. Qu'en faites-vous, mon cher Keynes ? S'il y a crise immobilière, c'est qu'au milieu des années 2000, la Fed, la Banque Centrale Américaine, a trop fortement baissé ses taux d'intérêt. De nombreux ménages modestes ont pu alors s'endetter lourdement pour acheter leur maison, créant une belle bulle. Et en éclatant, elle a déclenché la crise financière.
Alors j'imagine que ce n'est pas un débat qui les met d'accord à la fin.
Voilà, et on les voit à l'image. Donc là, à la fois, c'est imaginaire, c'est ludique.
Dans la salle sur la création monétaire, l'objectif c'est de comprendre que ce sont les banques commerciales qui créent la monnaie.
Voilà, alors ça c'est pour moi le propos principal de la Cité de l'économie, mais d'où vient l'argent, qui crée la monnaie. Et donc là, c'est dans la séquence 2 sur les acteurs de l'économie, il y a donc une petite salle où on présente la création monétaire pour dire que apprendre au public, les économistes le savent en général, mais le grand public ne le sait pas, ce ne sont pas les banques centrales qui créent la monnaie, ce sont les banques commerciales qui crée la monnaie chaque fois qu'on vous accorde un crédit. À ce moment-là, bien sûr encadré par la banque centrale sur la capacité de la banque commerciale à prêter, mais à ce moment-là, on crée l'argent dont vous avez besoin parce qu'on a confiance en vous, parce qu'on a confiance que vous allez rembourser.
Est-ce qu'on pourrait aller maintenant à la salle des coffres ?
Très bien, parce qu'on veut voir, on veut quand même toucher l'or. Hein. On a beau savoir que la monnaie n'est pas indexée sur l'or, quand même c'est beau cette matière.
Alors, la salle des coffres, c'est vraiment le clou de ce musée ?
Tout à fait. Alors, on va passer par un petit passage secret. Alors, on ouvre une porte et nous allons passer dans ce petit entre-deux entre la façade de l'hôtel particulier Gaillard et le hall des guichets. Et nous allons prendre l'escalier du puits qui n'a jamais eu d'eau, mais qui est un décor charmant. de l'hôtel Gaillard et on descend par ce petit escalier en colimaçon.
C'est un lieu qui est absolument gigantesque, effectivement, on peut s'y perdre.
On peut s'y perdre, c'est ça qui est bien. Et on pourra faire avec des groupes, des tas de visites dans tous les sens. Il faudra évidemment que les médiateurs s'approprient le lieu pour ne pas s'y perdre. Voilà. On est là devant l'entrée de la salle des coffres avec des grosses portes fichets.
Et nous sommes entourés de douves de 5 mètres de haut.
Alors voilà, on a, la salle des coffres est entourée de douves. C'est un lieu imprenable. On l'a remise en eau. Et donc, on a reconstitué, on n'a pas touché à ce décor. Il n'y a plus que deux salles des coffres dans leur jus à Paris. Et c'est la seule qu'on peut visiter. Et nous sommes sur un pont mobile. C'est-à-dire que ce pont se rétracte sous le plancher. Les grilles se referment et la salle des coffres se trouve entièrement entourée d'un fossé rempli d'eau et tout à fait imprenable.
Alors ici, on peut voir des monnaies particulièrement anciennes.
Voilà. Alors on est donc dans la salle des coffres et la salle des coffres a été aménagée pour la partie supérieure en vitrine. Et donc sur la mezzanine de cette salle des coffres, en partie haute, on peut voir l'histoire de tous les moyens de paiement. Donc ça commence avec les prémonnaies et puis ensuite on a les premières pièces en or, les pièces grecques, les pièces romaines. On a les pièces de la conquête espagnole. Et puis on passe ensuite aux assignats et aux billets imprimés pour arriver à la fin du parcours à l'argent dématérialisé, puisque c'est le cas aujourd'hui. Donc une collection remarquable de la Banque de France et puis des pièces exceptionnelles prêtées par la Bibliothèque nationale de France et en particulier un écu d'or de Saint-Louis qui est là, qui est une pièce très rare. Il y a peu de pièces, hein, on n'a pas fait l'histoire des monnaies, mais chaque pièce est exceptionnelle. Et donc, à chaque fois, il y a un focus sur les monnaies celtes et gauloises, en quoi elles sont importantes. Donc, il y a un petit propos général sur la vitrine, et puis après, des focus en fonction des monnaies. Toutes ces pièces, on peut les retrouver sur un multimédia qui présente toutes les pièces et tous les billets. On peut le retrouver aussi sur Internet.
Pour finir là-dessus, parce que ça fait partie des critiques qu'on a pu entendre sur le fait qu'il manquait peut-être un aspect plus social, et notamment que l'action des inégalités était traitée, mais peut-être à la marge. Ouais. Est-ce que c'est un choix qui est assumé aujourd'hui par la Cité de l'économie?
Alors la Cité de l'économie, elle va être aussi complétée. Elle va être complétée par notre première exposition temporaire qui s'appelle Né quelque part, qui aura une dynamique beaucoup plus internationale, beaucoup plus développement, beaucoup plus sociale. Elle y aura des conférences. Donc cette exposition permanente, c'est le premier noyau. Mais évidemment que les sujets qui peuvent poser polémique n'ont pas forcément leur place dans une exposition permanente. L'exposition permanente, elle doit être pérenne. Donc elle ne doit pas être sur des sujets trop mouvants. Et il y avait assez à dire sur des fondamentaux. Et bon, après, c'est pas une exposition où on prend parti. C'est-à-dire qu'on pense, on met les faits, on met ce qu'on sait, on met les choses en regard, on met les points de vue de croisée. Et on compte sur l'intelligence du visiteur pour se poser des questions et avoir l'idée d'en débattre. Pour moi, la conversation créée entre les visiteurs, l'interrogation, le débat que va susciter l'exposition permanente a autant d'importance que ce que l'on transmet dans l'exposition permanente. Et je compte sur l'intelligence du visiteur pour aller plus loin.
Alors c'est gratuit donc aujourd'hui, demain et dimanche?
Voilà, c'est gratuit. Venez voir. C'est d'abord un lieu formidable dans lequel nous avons une muséographie exceptionnelle, très interactive, très ludique, très variée. Vraiment, ça vaut la peine. Et surtout, on espère vous voir à l'automne, puis les années qui viennent. Cette Cité de l'économie, c'est un point de départ. C'est vraiment au public de se l'approprier. Et plus le public viendra nombreux, et plus on pourra faire des choses passionnantes.
If I had $1 million,
if I had $1 million,
well, I'd buy you a house,
I would buy you a house.
And if I had $1 million.
Merci beaucoup à Xavier Limagne et au directeur de Citeco, Philippe Ginès, qui nous ont accueillis dans cette ancienne succursale de la Banque de France, devenue le premier musée européen consacré à l'économie. La Cité de l'Écho est donc accessible gratuitement pendant 3 jours, puis l'entrée est fixée à 12 euros.
Well, I'd buy you a K-car,
a nice reliant automobile.
And if I had $1 million, I'd buy your love. If I
semaine prochaine, c'est l'économie de l'Antiquité qui va nous intéresser, de Babylone à Athènes, en passant par l'Égypte des pharaons. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.
If I had $1 million,
if I had $1 million,
well, I'd buy you a fur coat, but not a real fur coat, that's cruel. And if I had $1 million,
if I had $1 million,
well, I'd buy you an exotic pet,
yep, like a llama or an emu.
And if I had $1 million.